RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité débattue sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Vincent Hugeux, l'Express, Malik Seibou, Idrissou du groupe Média Fraternité, c'est au Bénin. Ensuite, Gilles Olakunle Yabi, politologue et fondateur de WATI, un centre de réflexion d'études sur l'Afrique de l'Ouest, centre basé à Dakar au Sénégal. On y reviendra à la fin de cette émission. Et après nous être penchés, messieurs, sur le Tchad, où le président Idriss Déby veut instaurer une 4e République, un régime hyper-présidentialiste, et ça passera par une révision constitutionnelle vivement dénoncée par l'opposition. Et puis en RDC, l'élection présidentielle promise avant la fin 2018 se met lentement sur les rails. L'opposant Moïse Katumbi, l'un des principaux candidats à la présidentielle, est toujours contraint à l'exil. D'abord, le Tchad et ce projet de constitution d'une 4e République approuvé par le gouvernement cette semaine. Il ne reste plus que l'aval du Parlement. Le Tchad attendait, on le sait, des solutions au marasme économique et surtout social. Des fonctionnaires se voient ponctionner régulièrement des primes, des salaires. Bref, pas question, plus question avec cette 4e République de Premier ministre, voire de vice-président. Le président Idriss Déby va concentrer tous les pouvoirs. Alors, certains opposants y voient une clarification, en fait, sur la nature du régime. Et d'autres, plus sérieusement, dénoncent un coup de force institutionnel de plus. Malik Seibou, la décision en fait a été prise par Idriss Déby. Il y a eu un forum, mais ce forum n'était pas inclusif. Donc ça a été d'ailleurs boudé par l'opposition. Ça a été boudé également par les représentants de la force de la société civile. Et il semble, alors soit c'est adopté par voie référendaire, soit par le Parlement. Un Parlement qui, en fin de compte, a terminé son mandat depuis 2 ans.
Oui, malheureusement, au Tchad, Idriss Déby est en train de récolter les dividendes de sa lutte contre le terrorisme. Les rideaux sont baissés et personne ne regarde de l'autre côté ce qui se passe, le drame qui se déroule. Le peuple tchadien aujourd'hui est dans une situation, hélas, pas soutenable. Après tout ce temps passé au pouvoir, Idriss Déby s'offre encore une nouvelle constitution pour perdurer à la tête du pouvoir, mais personne ne dira rien. Surtout que Idrissou Déby est un rempart contre le terrorisme au niveau du Sahel. Et il ne faut pas aussi oublier qu'au niveau de l'Union africaine, il a la commission de l'Union africaine. Donc,
vous voulez dire que le président de la commission de l'Union africaine, effectivement, c'est l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. Il ne prendra jamais le contre-pied du Tchad.
Donc, lorsqu'on regarde ainsi ce qui se passe sur le théâtre sahélien avec ce que représente le Tchad pour contrer les terroristes. Lorsqu'on regarde la position du Tchad au niveau de l'Union africaine, c'est pas demain que la communauté internationale va s'émouvoir de ce qui se passe au Tchad.
Surtout la France. Donc, priorité, Gilles, apparemment, à la lutte contre le terrorisme et non pas à la lutte pour plus de démocratie, finalement, au Tchad. On peut résumer la situation ainsi, non?
Oui, non, je pense qu'effectivement, la lutte contre le terrorisme est devenue un facteur important de régression démocratique et de régression des libertés, pas seulement au Tchad, de manière assez générale, et d'ailleurs pas seulement dans les pays africains. Mais je crois que pour revenir à la Constitution et à la 4e République souhaitée par le président Déby, pour moi, le processus est lui-même, il est vicié, précisément parce qu'il est porté par un président qui est en place depuis 28 ans, et que dès lors qu'il est porté par Idriss Déby, au fond, je crois qu'il y a très peu de monde qui s'intéresse au contenu même de ce projet et aux autres dimensions. Et je crois que c'est peut-être la plus grande faiblesse de ce processus, c'est que effectivement la perception, c'est que c'est essentiellement un projet voulu par le président Déby et qui va lui permettre de rester au pouvoir encore pendant très longtemps, disons une présidence à vie, pour être très clair. Mais au-delà de cela, je pense que on a des processus de révision de constitution ou d'élaboration d'une nouvelle constitution, comme c'est le cas au Tchad et comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. On a des processus qui banalisent ce qu'est une constitution. C'est pas simplement un texte technique, c'est pas un texte même politique, c'est un test citoyen à mon avis, et c'est un test qui doit d'abord porter des valeurs. Et c'est pour ça que le processus qu'on utilise pour élaborer une nouvelle constitution, dans un pays comme le Tchad qui a d'immenses défis, je crois que ce processus doit être extrêmement ouvert. On devait avoir une consultation réellement des populations pour savoir d'abord quelles sont les valeurs qu'on veut sacraliser dans la constitution et comment est-ce qu'ensuite on les décline dans l'organisation du système politique.
Alors comment se fait-il, Vincent, que ce que vient d'exprimer Gilles sur la nature d'une bonne constitution n'est jamais mise en avant? On n'entend pas Paris ou le Quai d'Orsay ou les conseillers de Macron ou Macron lui-même exiger d'Idriss Déby justement de respecter ces canons, enfin ces lois d'airain pour plus de liberté au fond pour les Tchadiens.
Parce que les despotes africains, élus ou pas, ont pris pour habitude de mettre la charrue devant les bœufs. Le pouvoir d'abord, la constitution ensuite, comme habillage de ma légitimité.
Plutôt qu'un outil, en fait.
Bien sûr. Observons au passage, là encore, dans le processus de forum, qui bien sûr était une fiction, là encore, on était dans une forme de théâtralité de cette réforme. On avait, par exemple, beaucoup parlé d'un passage à l'État fédéral.
Oui.
Idriss Déby lui-même.
Absolument.
Puis qu'en reste-t-il ? Non, maintenant, on nous parle d'un État unitaire profondément décentralisé, ce qui veut tout dire et rien dire. Et on passe donc de 23 régions à 17 provinces. De même, les législatives, ça fait quand même maintenant
deux ans et demi
qu'on les attend. On les annonce, on les promet pour novembre de 2000. Cette année, pourquoi pas. Et un dernier point, je reviens sur le propos de Malik Seibou à l'instant, qui me paraît absolument essentiel parce qu'il est transversal, notamment en Afrique centrale. C'est ce qu'on pourrait appeler la rente de situation géopolitique. Avec cette priorité accordée, pour d'assez bonnes raisons,
à la lutte contre,
le terrorisme et le djihadisme, eh bien, les États, tels que la France, ont baissé leur mire démocratique. Et un Idriss Déby est passé maître, comme d'ailleurs, d'une certaine manière, Ali Bongo au Gabon, ou même Paul Biya au Cameroun, pour des raisons logistiques, nous avons besoin de la complicité active. S'agissant de Déby, on a besoin aussi d'envoyer au casse-pipe des soldats aguerris, et les siens sont à peu près les seuls à hauteur de la tâche en ce moment. Bien. Et donc, quoi qu'on en dise dans les hautes sphères élyséennes, oui, on a révisé à la baisse nos attentes. Et en plus, comme on sait très bien qu'on encourt immédiatement un procès en néocolonialisme culturel, eh bien, on lève les yeux au ciel lorsqu'il s'agit de commenter des travers tels que ceux qu'on dépeint ici.
Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, Malik Seibou, la plupart, finalement, des constitutions africaines, notamment en Afrique francophone, sont directement inspirées du texte de la constitution française. C'est souvent des copier-coller réalisés par des constitutionnalistes français, des professeurs d'université, dont certains d'ailleurs sont aujourd'hui conseillers du prince, pour ne citer que le cas du Togo. Comment se fait-il que les dirigeants africains continuent, y compris d'ailleurs toutes les forces politiques, à s'enferrer dans ce système de pensée finalement qui appartient à l'ancien maître colonial ?
Oui, c'est vrai, la question est préoccupante et elle devait interpeller tous ces dirigeants-là, même si il faudrait noter qu'en matière de constitution, il y a certains pays qui font quand même exception, comme le Bénin, par exemple, qui a une constitution depuis 90 qui tient encore. Non, il faudrait que les intellectuels africains comprennent qu'il n'y a pas un modèle quelque part qu'il faut aller copier et pouvoir l'imposer aux populations. C'est aux populations, normalement, de voir ce dont elle a besoin. Le vécu des Africains n'est pas comparable à celui de la France. Et donc, la constitution française appliquée en Afrique montre ses limites, mais malheureusement, nous ne faisons pas assez d'efforts, nos constitutionnalistes ne font pas assez d'efforts pour pouvoir contextualiser nos constitutions avec nos réalités.
Autrement dit, on revient sur ce que vous disiez, Gilles Abi, c'est que finalement, on n'accorde pas à la Constitution la valeur qu'elle représente dans une
sacralité.
Société. La sacralité qu'elle représente, en fin de compte. Et que c'est devenu véritablement un instrument de pouvoir comme un autre à la disposition des dirigeants.
Absolument. Je pense que, d'abord, premier point, je pense que les nuances sont quand même importantes. Le forum au Tchad, dénommé forum inclusif, ouais, il n'a pas totalement été, puisque les coalitions l'opposition n'y était pas, mais je pense qu'il faut tout de même, on peut pas non plus ne pas regarder la réalité. Il y a eu des consultations, ça a oui. pris près d'un an pour élaborer ce projet, et le projet dans son contenu ne rappelle pas spécifiquement la constitution française. Et je crois que de manière générale aussi, dans des pays comme le Bénin et dans d'autres pays de la région ouest-africaine, au-delà de l'espace francophone, il y a aujourd'hui une diversité de textes constitutionnels qui ne sont pas directement inspirés.
Mais est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que c'est vraiment
Ça, c'est une autre question qui est extrêmement importante. Adapté aux environnements sociaux et surtout pour moi, adapté aux sociétés qu'on veut construire. Une constitution, c'est peut-être le seul moment où une société se doit d'être idéaliste. On me dit, voilà, il n'y a pas de démocratie idéale, mais c'est justement des règles dont on se dote pour au moins créer un cadre qui peut pousser des pratiques politiques à être de plus en plus, disons, conformes à la recherche de l'intérêt général.
Et c'est pas la 4e République au Tchad qui va inaugurer ce...
Probablement pas. C'est pas la quatrième République au Tchad qui va inaugurer cela, mais je crois que la responsabilité, à nouveau, elle est au niveau d'abord de nos pays, au niveau des citoyens, et le renversement du rapport entre les gouvernants et les gouvernés, ce qui est pour nous un axe central à Wati, cela doit se faire en réfléchissant, en regardant les pratiques politiques réelles et en cherchant à les corriger. Et je crois que de ce point de vue-là, et je me permets de le dire également, le modèle français n'est pas nécessairement le plus démocratique, modèle. Y compris dans les différents modèles existants au niveau de des vieilles démocraties, en tout cas celles qui sont présentées comme telles.
Vincent, un dernier mot.
Non, juste en écoutant nos amis, je me disais qu'au fond, je rêverais d'un travail constitutionnel qui serait conduit par des juristes africains. Alors, s'ils le souhaitent en consultation avec leurs collègues, hein, il n'y a pas du tout d'ostracisme dans mon propos, mais qui irait jusqu'à rompre avec la structure même. Dire cathédraliser des textes constitutionnels, le préambule, l'article 1, etc. Voilà, qui établirait un corpus de valeurs idéalistes. Oui. Je rejoins tout à fait Gilles Yabi là-dessus. C'est-à-dire qu'une constitution qui n'est pas idéaliste, c'est effectivement simplement un instrument de pouvoir, une boîte à outils dont on modifie le contenu en tant que de besoin. Voilà, qu'un jour on voit surgir un objet constitutionnel non identifié, en tout cas tout à fait novateur, je pense que là on ferait un vrai pas en avant.
RFI TV 5 Monde, et l'on passe au deuxième sujet d'Afrique Presse, la RDC, où l'on se hâte lentement vers les élections prévues vers la fin de l'année. En cette année 2018, la commission électorale a annoncé la fin de la révision du fichier électoral la semaine dernière. On se rapproche donc de la phase de la campagne électorale, mais ce sera en tout cas sur le terrain en RDC même, sans Moïse Katumbi, l'opposant qui avait annoncé sa candidature de longue date, mais qui est toujours contraint à l'exil. Vincent, Moïse Katumbi fait l'objet de multiples poursuites judiciaires. Or, la CINCO, la conférence des évêques catholiques du Congo, avait estimé qu'il s'agissait là que de pression purement politique. Il n'empêche que pour l'instant, il est toujours tenu à l'écart de son pays.
C'est très simple. Si Moïse Katumbi rentre demain matin à Kinshasa, il est immédiatement arrêté et incarcéré pour une raison très simple, c'est qu'il a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de litige immobilier assez ténébreuse d'ailleurs, et que 2 autres procédures lui pour donner. La plus récente, la plus insolite, porte sur ce qui est défini comme une usurpation de nationalité. On l'accuse donc d'avoir acquis la nationalité italienne et donc de ne plus être fondé à briguer la magistrature suprême dans l'ancien Zaïre. Et puis il y a cette affaire de recrutement présumé de mercenaires, dont un Américain. Le procès est annoncé, je crois, pour la fin du mois de juin prochain. Et par une cour, on le notera au passage, car il n'y a pas de détails en la matière, qui n'est pas susceptible d'appel.
Absolument.
Le verdict
et qui n'est pas habilité finalement donc, à instruire ce dossier.
Si l'on met ces éléments factuels bout à bout, très clairement, c'est un bannissement de nature politique. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que Moïse Katumbi a été très longtemps prudent vis-à-vis du pouvoir de Joseph Kabila. Il passait même, d'une certaine manière, pour un de, non pas de ses alliés, mais enfin plutôt un proche. Et à partir du moment où il s'émancipe, il est quand même ancien gouverneur du Katanga, c'est un homme d'affaires prospère, eh bien, il devient virtuellement une sorte de péril, puisqu'il incarne une forme d'alternance, tout comme d'ailleurs Félix Tshisekedi, le fils du fondateur légendaire de l'UDPS.
Absolument. Alors voilà, Malik Seibou, l'ONU se porte garante de ces élections. D'ailleurs, la patronne de la MONUSCO, l'Algérienne, a reprécisé récemment dans une interview que après ces élections, ce sera sans doute le départ de la MONUSCO. Bref, donc ces élections seront capitales, mais on n'entend pas parler du tout d'une campagne responsable, d'une campagne qui justement permette une élection, un processus électoral transparent et équitable.
Oui, mais l'ONU souhaite quitter le Congo parce que vous savez que sa mission lui coûte trop cher.
Non, mais donc c'est du bluff. Lorsque l'ONU parle de garantir une élection irréprochable, ça ne tient pas la route.
Moi, je dis que c'est un souhait. C'est un souhait de l'ONU. Ils veulent partir du Congo, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas partir dans la situation actuelle. Et donc, ils souhaitent que les élections s'organisent au plus tôt. Mais lorsqu'on regarde la réalité de plus près, on se demande si ces élections auront lieu cette année 2018. Parce que lorsque vous prenez par exemple la situation du Congo, l'opposition qui est dans ses contradictions, ensuite Kabila qui n'est pas prêt à partir, ne nous voilons pas la face. Oui. Et donc qui croise les bras, espérant que la faute soit commise au niveau de l'opposition et que lui puisse encore en gagner une nouvelle année.
Gilles Yabi, votre point de vue sur le cas de la RDC, un cas d'école qu'aucun politologue ne peut ignorer. Et puis cette situation ubuesque, quoi, où l'un des candidats les plus populaires aujourd'hui est contraint à l'exil, Katumbi.
Oui, alors un cas d'école, mais surtout une tragédie. Je crois que le véritable problème, c'est que lorsqu'on parle de ces élections en République démocratique du Congo, on parle de bataille politique, politicienne, et on oublie qu'on a affaire à un pays qui est peut-être la plus grande tragédie à nouveau permanente du continent africain. Le contraste entre les conditions de vie des populations aujourd'hui dans ce pays, les conditions de violence encore extrêmes parfois dans certaines provinces du pays, et l'étendue de la crise que je qualifierais de crise morale dans la société congolaise, qui est directement le résultat du comportement
des gouvernants.
Exactement. Donc ce dont on parle, c'est on parle d'un pays qui a ses défis qui sont immenses, et c'est pour cela que finalement la bataille politique entre le camp au pouvoir et Moïse Katumbi, au fond, c'est une partie de l'histoire, et c'est peut-être pas en réalité la plus significative. Mmh. On oublie les enjeux économiques qui sont directement connectés aux enjeux politiques. La République démocratique du Congo, c'est bien sûr un immense gisement de ressources, mais c'est aussi pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est la moitié, dit-on, des réserves de cobalt. Disons ouais. Peut-être la ressource la plus stratégique de l'avenir. Ouais. Donc là encore,
donc, ça reste un terrain de jeu des grandes puissances.
Il y a beaucoup de monde qui suit ces élections. Il n'y a pas que les Congolais, malheureusement.
Mmh. Malheureusement. Et puis alors, il y a ce cynisme de l'État congolais, ouais. Du régime Kabila, de refuser de participer à cette conférence des donateurs pour répondre à la demande humanitaire, mais incroyable, alors, en RDC.
D'abord,
et c'est tout simplement parce que, soi-disant, l'ONU ternirait l'image du pays en avançant un nombre de déplacés, soi-disant, plus important.
C'est la même implacable logique, c'est-à-dire la MONUSCO souhaite s'effacer, mais Kinshasa exige qu'elle disparaisse du paysage à l'horizon 2020. Nous n'avons pas besoin de vous. Des éléments perturbateurs plutôt qu'autre chose. Cette conférence des donateurs, qui a été boycottée explicitement par le régime, qui a lieu ce vendredi à Genève, elle a eu le malheur de souligner les besoins humanitaires aigus dans quatre provinces, le Kasaï, le Tanganyika, les Kivu et une quatrième qui doit être l'Ituri. Voilà. Et donc, on fait vibrer la corde patriotique en disant « Mais vous brossez un tableau excessivement sinistre de la situation, nous n'avons pas besoin de vous. » Et c'est vrai que c'est un calcul qui fait bon marché du sort de centaines de milliers de Congolais qui sont encore aujourd'hui dans l'errance, dans la vulnérabilité sanitaire et dans le désert scolaire, pour ne citer que ces critères-là.
Voilà, nous sommes au terme de cette émission, et avant de la refermer, vous nous parlez, Gilles Yabi, de votre institut, donc Wati, institut basé à Dakar au Sénégal, mais se déploie partout dans le monde, via Internet. Vous êtes économiste de formation, spécialiste du développement, et puis politologue sollicité de longue date, notamment par RFI et plusieurs médias, TV5 Monde. Alors, que propose Wati, acronyme qui a une double signification?
Oui, double signification. Wati, c'est West Africa Think Tank. C'est un peu l'ouverture sur le monde. Mais c'est aussi et peut-être surtout une déformation de Waati, qui est un terme bambara, qui signifie le temps. Donc, le temps, c'est à la fois le temps de l'urgence, l'urgence d'une mobilisation face aux enjeux dont nous venons de discuter, oui. Qui sont énormes, mais aussi le temps dans la longue durée, parce que nous estimons que sur le continent africain, nous avons encore à répondre à des problèmes structurels. Système ouais. éducatif, système politique, on doit en parler avec les constitutions. Nous n'avons pas encore stabilisé nos institutions politiques et nous n'avons pas encore fait des choix très clairs en matière d'orientation dans différents domaines structurels. Donc nous essayons de nous concentrer sur ces questions au niveau de Wati. Donc c'est voilà. Un peu simplement la déclinaison de l'acronyme.
Voilà. Alors comment peut-on vous aider? Il y a une adresse internet et puis surtout, vous attendez des appuis, des soutiens financiers.
Oui, alors le site internet, il est crucial pour Wati, c'est www.wati, donc www.athi.org,
voilà.
Et une adresse email, info@wati.org, qui permet d'avoir des informations sur ce que nous faisons. Mais oui, nous avons besoin de soutien pour avoir, disons, l'indépendance qu'il faut pour une plateforme africaine qui réfléchit et qui agit sur le continent.
Voilà, plateforme évidemment ouverte à tout le monde, pas seulement aux Africains, bien entendu.
Absolument.
Merci à vous, Gilles Yabi, d'être venu nous voir. Merci également Malik Seybou, ainsi qu'à vous, Vincent, de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver bien sûr sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.